9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour les amis de la radio, Maître Serran est ravi de vous retrouver pour partager un moment de bonheur absolu d'ailleurs. Comment pourrait-il en être autrement puisque nous allons échanger ensemble durant près d'une heure. Je sais c'est trop court mais vous ne perdrez pas au change car ensuite officiera mon ami Abdel Ali Mamoun, the king of the imam. Bon, vous connaissez le principe de l'émission, vous posez vos questions, on va tenter d'y répondre. Mais avant de vous lancer sur votre téléphone, évoquons l'actualité de la semaine. Et l'actualité est dominée par les manifestations du 19 janvier contre la réforme des retraites. Manifestation qui a été, selon les 8 organisations syndicales, un véritable succès. Mais manifestement, le gouvernement s'en bat les cheveux puisque les membres du gouvernement ont défilé à la télé, crié haut et fort. Oui, la mobilisation a été importante, mais cette réforme se fera quand même. Vous pourrez enfin espérer travailler jusqu'à 67, 68, voire 70 ans, selon les options les plus optimistes, sans vos cheveux, sans vos dents, avec des protections contre les fuites urinaires. Et après avoir profité de quelques mois de votre retraite, vous pourrez enfin clamser tranquille. Et oui, la vie, selon Macron et son équipe de start-upers, c'est de te permettre de travailler avec un salaire médiocre, juste ce qu'il faut pour ne pas que tu meures de faim, mais pas assez pour mettre de l'argent de côté, il manquerait plus que ça. Alors oui, certains d'entre vous pourront s'acheter un petit pavillon, un petit appartement à crédit, mais n'oubliez pas que vous ne serez que le propriétaire d'un crédit pendant 20 ou 25 ans, et puis qui dit propriétaire dit règlement d'une taxe foncière tous les ans en constante augmentation à t'arracher les poils du cul. Et là encore, quand tu auras fini de payer ton crédit, ce sera en gros le moment où tu arriveras à la retraite et quelques mois après, tu passeras, selon l'expression consacrée, l'arme à gauche. Bref, on a affaire à un président et une équipe gouvernementale hors sol. Normal, nos start-upers, pour ne pas dire nos mercenaires qui nous gouvernent, ont d'abord des salaires de ministre et après avoir bien alimenté leur carnet d'adresses, trouveront un poste dans une grande société, auront un salaire beaucoup, beaucoup plus élevé que leur salaire de ministre. Alors vous imaginez bien que pour ces types, le prix élevé des denrées, le prix élevé de l'essence n'a pas d'impact particulier. Mais peuple de France, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Qui a eu l'idée de voter Macron aux dernières présidentielles? Allez, éloignons-nous de la France pour évoquer le leader de l'Europe. Celui qui gronde tous les dirigeants européens, celui qui considère que l'Europe doit se comporter comme le Père Noël et lui fournir tout ce qu'il désire, celui qui est prêt et qui souhaite que toute l'Europe s'embrase pour sauver l'Ukraine. D'ailleurs, ce pays ne m'inspire tellement rien que j'écris Ukraine avec un U minuscule. Je veux bien évidemment parler de Zelensky. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment ce type a réussi à ensorceler les dirigeants européens qui sont prêts à sacrifier leur pays, leur peuple pour tenter de sauver l'Ukraine avec un U minuscule. Je déclare très officiellement que si demain, par extraordinaire, la Russie devait entrer en guerre contre l'Europe et donc contre la France, je ferais partie du camp russe. Allez, que vous soyez pro-russe ou pro-russe, n'hésitez pas à appeler le 01 53 48 3000. Posez vos questions en russe exclusivement. Émission sous le contrôle de celui qui s'est mis à apprendre le russe, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran sur Beurre FM. Alors déjà, Maître Serran, il faut commencer par l'événement de la journée.
De la journée? Alors quel est l'événement de la journée?
Mam Serran.
Ah oui, 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 c'est l'anniversaire. Oui, c'est vrai. C'est l'anniversaire de mon épouse.
Moi, je tiens la peine. Et c'est comme ça, vous souhaitez un bon anniversaire à votre épouse?
Non, mais d'abord, oui, c'est vrai. Mais enfin, je vais donc...
Pas de fausse humilité, Maître Serran.
Mais vous me connaissez, je suis un grand timide.
Donc, mon cœur, je te souhaite...
Mon cœur, voilà. Mon bébé, ma chérie, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a très longtemps, quand on s'est marié le jour de son anniversaire, c'est dire que je suis manifestement le cadeau de sa vie.
Ah, elle s'est mariée le jour de son anniversaire?
Eh oui.
Oui, vous m'avez... ça fait combien de temps qu'elle est avec vous?
Oh, ça fait 27 ans.
Ah ouais, elle a une médaille en chocolat là.
Ah ouais, carrément.
Et alors c'est quoi le programme pour Mme Serran pour son anniversaire?
Oui, enfin bon, on est obligé d'entrer dans tous les détails.
Vous l'amenez manger à Hippopotamus? Formule hippociné?
Ouais, bah c'est... Mais c'était pas mal avant Hippopotamus quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein. On trouvait ça bien quand on y allait. On trouvait ça presque classe.
Ouais.
D'ailleurs, ça existe toujours?
Oui, ça existe.
Ouais.
Bon, alors c'est quoi le programme? Est-ce que Madame Serran va avoir un petit repas amélioré, un bouquet de fleurs?
Oui, forcément. Enfin, bah, il n'y a pas que le mari je suis. Ses enfants aussi font en sorte que, ce qui est normal. Et puis, il y a des, il y a des âges comme ça et des moments dans la vie où ce sont des paliers. Donc là, c'est un palier qui est,
ah oui,
qui est symbolique.
Elle, elle met le compteur à zéro là quelque part. Il y a un chiffre qui.
Ouais.
Ah oui.
Donc voilà, il y a de ça aussi.
Bon, Fodil, tu isoleras le morceau où Maître Serran souhaite un bon anniversaire. Madame Serran. Maître Serran, je dois vous dire que je suis un vieux machin pas du tout au courant de l'actualité, puisque vous avez été le premier, la semaine dernière, à évoquer l'actualité qui enflamme le monde entier. Cette semaine, Shakira est devenue celle qui a battu le record de la chanson latine la plus regardée de l'histoire sur YouTube. Et vous nous en aviez parlé la semaine dernière. Alors depuis, il s'est passé des choses, hein, puisque Gérard Piqué, lui aussi, a très bien communiqué. Je ne sais pas s'il a une équipe de communicants, mais franchement, il a bien réagi.
Oui, il a sorti sa Twingo et tout ça. Non,
il a signé un contrat avec,
avec Casio.
Ouais, c'est bien.
Non, mais ils sont forts tous les deux. Mais je retiens une chose, parce que la semaine dernière, vous m'avez dit quoi? Vous vous prenez pour Mona? C'est ce que vous m'aviez dit, non?
Non, c'est vrai.
Ah, bah c'est bien de le reconnaître.
Et je suis pas sûr que c'était un compliment au moment où je l'ai dit.
Ouais,
parce que les insolites, c'est Mona.
Ouais.
Non, mais j'en ai entendu parler, pour tout vous dire, mardi ou mercredi sur les grandes radios généralistes.
Voilà.
Où il parle. Mais vous êtes très en avance, Maître
Serran. Oui,
est-ce que vous seriez connecté sur les réseaux sociaux?
Un peu.
Ouais.
Un peu.
N'empêche qu'ils savent faire de l'argent avec ça.
Ouais, franchement, ils sont forts, mais tous les deux.
Ils vont refinir ensemble.
Oui, enfin, probablement, mais ils sont ensemble. Il
ne
va pas rester avec sa jeunette qui ressemble à rien. Donc il va revenir voir la mère de ses enfants.
Ouais, c'est comme ça que ça va se.
Mais bien sûr.
En tout cas, ils ont fait du bis.
Ah oui, ils sont bons. Ouais, en tout cas, ils ont une bonne équipe.
Bel exercice de communication. On devrait s'en inspirer plus souvent. Pas facile de faire une transition, Maître Serran, puisque nous allons parler ce matin du droit au logement opposable, le DALO. Et à l'occasion des 15 ans de la loi, le Haut Comité pour le droit au logement a publié un rapport. Un rapport qui dresse le bilan de la mise en application de cette loi. Alors déjà, Maître Serran, c'est quoi un droit opposable?
Alors un droit opposable, c'est un droit que vous pouvez invoquer contre l'État, c'est-à-dire pour dire voilà, j'ai le droit, en l'occurrence j'ai un droit au logement, et donc à partir du moment où j'ai un droit au logement, vous allez pouvoir contraindre l'État à vous fournir un logement. Il faut savoir que à l'époque déjà je faisais pas, enfin j'étais étudiant en droit, et puis justement, vous voyez, on parlait de Madame Serran, on venait de se marier, c'était une galère pas possible pour avoir un appartement, donc impossible d'avoir un appartement. Et je me souviens, j'avais écrit un courrier au maire de la ville où on habitait pour dire, mais attendez, dans la Convention européenne des droits de l'homme, on parle déjà, en tout cas dans les textes internationaux, on parle toujours de droit au logement. Et le maire, la crapule de l'époque, m'avait répondu en disant, mais vous invoquez des textes, mais ils ne sont pas applicables. Ce qui était vrai, juridiquement c'était vrai, puisque cette fameuse loi n'existait pas. Donc ça m'avait déjà beaucoup marqué. Je me posais la question de savoir quel était l'intérêt d'avoir des beaux textes pour simplement avoir des principes. Et puis, il y a quand même un intérêt, puisque ce droit au logement opposable résulte aussi de ces textes internationaux. Donc, droit au logement opposable, encore une fois, ça veut dire que vous pouvez contraindre l'institution, vous pouvez contraindre la mairie, vous pouvez contraindre le préfet à vous fournir un logement.
Donc ça, c'est la théorie. Donc ça concerne qui, le droit au logement?
Alors ça concerne. Alors d'abord, on est dans le cadre de logements fournis par des organismes sociaux. C'est-à-dire que si votre votre bailleur est un privé, vous ne pouvez pas imposer, sauf dans des circonstances très très particulières, mais vous ne pouvez pas imposer, en tout cas mettre en avant ce droit au logement. Alors ça concerne qui ? Ça concerne d'abord les personnes qui, elles, ne sont pas tenues par des délais particuliers et peuvent exiger cette remise du logement, les personnes qui font l'objet d'une expulsion. Les personnes, alors objet d'une expulsion, un jugement qui a été rendu, qui vous demande de quitter les lieux. Donc avec ce jugement-là, vous pouvez déjà immédiatement saisir la commission. Ça concerne les personnes qui demeurent dans des logements qui sont insalubres. Là encore, il n'y a pas de délai particulier, vous pouvez saisir le service, la commission. Les délais s'imposent lorsque vous avez un logement qui vous faites pas l'objet d'une expulsion, vous n'êtes pas dans un logement insalubre et puis entre guillemets on va vous demander d'attendre votre tour. Alors il faut savoir que sur Paris vous avez quand même des délais. Je sais pas si on peut considérer que ce sont des délais normaux, mais vous pouvez entre guillemets commencer à vous plaindre à partir de 4 ou 5 ans d'attente, c'est-à-dire que il faudra justifier tous les ans que vous avez bien déposé, en tout cas renouveler votre dossier, et une fois que vous serez en capacité de justifier de ça, au bout de 4-5 ans, vous pouvez éventuellement dire attendez, je considère que le délai est ou serait un délai pas raisonnable.
Mais vous devez remplir un certain nombre de conditions. Alors, pour
il y a
pouvoir
un certain nombre
prétendre
de... D'abord, il faut être en situation régulière sur le territoire français. Alors, pour être français ou titulaire d'un titre de séjour, donc il y a des conditions financières aussi à réunir, puisqu'encore une fois, on est dans le cadre de logements sociaux. Donc, il y a des critères financiers. Et lorsque vous considérez que vous remplissez ces critères-là, financiers, de nationalité, de régularisation sur le territoire français, de délai, encore une fois, en fonction des départements, vous allez saisir votre commission départementale et faire donc une demande. Et cette commission, et là c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il faut que cette commission puisse reconnaître que vous êtes prioritaire. Donc il y a quand même un caractère d'urgence. C'est ce qui fait que cette commission, il suffit pas de la saisir pour avoir ce document qui dit « je suis prioritaire ». Cette commission peut dire « on considère de part vos critères que vous n'êtes pas prioritaire auprès des services HLM ». Et donc, dans ce cas-là, alors soit vous prenez acte de la décision, soit vous contestez cette décision. Et vous pouvez la contester. Alors déjà, on est dans le contentieux. Alors que le dossier commence, vous pouvez la contester en saisissant le tribunal administratif pour dire « Attendez, la commission ne me reconnaît pas comme prioritaire, entre guillemets, revoyez un peu la chose. »
Mais c'est la commission qui attribue les logements ?
Alors, la commission n'attribue pas les logements. En fait, la commission vous reconnaît simplement la qualité de propriétaire.
Donc, qui va attribuer les logements ?
Alors, une fois que la décision est rendue et qu'on dit la famille lambda est prioritaire, la décision est notifiée au préfet. Et c'est le préfet qui est chargé donc de vous trouver un logement. Donc, jusque-là, on se dit, bon, j'ai déjà une première étape qui était longue, et puis si j'ai une décision qui me reconnaît officiellement comme étant prioritaire, a priori, la préfecture devrait faire le nécessaire, et le préfet a un délai de 6 mois pour vous trouver un logement. Alors, en théorie, c'est une loi qui est extraordinaire, puisqu'on se dit...
la commission... c'est protecteur, ça aide des gens à se loger...
Voilà, la commission met, entre guillemets, un coup de pression au préfet, le préfet va s'exécuter, sauf que... Le préfet s'exécute en fonction des logements disponibles. Et il faut savoir que si, au bout de 6 mois, et 6 mois, alors ça peut sembler très long quand vous n'avez pas de logement, mais pour ceux qui connaissent le parcours du combattant, 6 mois, c'est rien. Si au bout de 6 mois, le préfet n'est pas en capacité de vous fournir un logement, vous avez, vous, la possibilité de contester cette décision et de saisir, on revient au tribunal administratif, pour forcer la main au préfet. Alors, on se dit, c'est une bonne chose, le préfet va se voir imposer de me trouver un logement grâce à l'intervention du tribunal administratif. En l'occurrence, là, c'est intéressant parce que la décision est rendue rapidement. Il faut compter 6 mois pour que le tribunal administratif rende une décision. Hein. Il faut savoir que dans d'autres domaines, notamment en droit des étrangers, quand un tribunal administratif rend une décision au bout d'un an et demi, 2 ans, c'est une bonne chose. Donc là, en la matière, le tribunal administratif rend la décision dans les 6 mois. Mais là encore, c'est terrible puisque le tribunal administratif dit quoi ? Il dit au préfet, on a une commission qui a reconnu la famille X comme étant prioritaire, vous êtes tenu de lui trouver un logement, et puis si dans un délai de 2-3 mois vous ne lui avez pas trouvé un logement, je vais vous condamner à verser une indemnité. L'indemnité, souvent le client nous dit, ça va entre guillemets compenser puisqu'il y a au moins une indemnité qui sera versée, il faut savoir que cette indemnité elle n'est pas pour vous. C'est une indemnité qui correspond au prix d'un loyer dans le secteur que vous avez demandé. Donc ça peut être 500, 600, 700, 800 euros. Mais cette somme d'argent, elle est versée à une commission, justement, qui va permettre la construction de logements. Donc c'est le tribunal administratif qui condamne le préfet. Donc c'est l'État qui condamne l'État. Donc c'est là où on se dit c'est quand même assez particulier. Et honnêtement, on se doute bien que l'argent va pas sortir du compte bancaire du préfet, donc que l'État soit condamné à verser des indemnités parce qu'il trouve pas de logement, ça n'a pas plus d'impact que ça. Alors on a toujours, si on est un guerrier, si on veut aller encore plus loin, on a toujours la possibilité de dire mais d'accord, mais moi ça me crée un préjudice, et de demander réparation de votre préjudice, c'est-à-dire que vous pouvez, en qualité de particulier, saisir à nouveau le tribunal administratif et demander à être indemnisé.
C'est ce que disait le Haut Comité pour le droit au logement, hein, dans son rapport, qu'effectivement c'était pas forcément si efficace que ça. Vous poserez vos questions à Maître Serran ou vous réagissez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions à Maître Suzanne tous les samedis au 01 53 48 3000. Ça vous va bien, Maître Suzanne ? Il y a une auditrice qui dit je voudrais parler à Maître Suzanne.
Ouais. Bah déjà, on va pas lui répondre.
Pourquoi ?
Non, mais d'accord.
Faut accepter votre différence.
Quand on connaît même pas le.
Accepter de ne pas être connu par le monde entier.
Ouais, non, mais quand on connaît même pas le nom de celui dont on attend une réponse intelligente, on ne répond pas.
Il boude.
Donc, Madame Chepaki, au revoir.
Comme dirait, arrêtez de bouder. Et on va accueillir Salia qui est avec nous. Salia, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci à tous.
J'entends pas.
J'adore Beurre FM. En fait, je pose une question parce que j'ai pas osé. Ça fait 3 ans que je suis en demande de logement social ayant des enfants. Et donc je suis dans le parc privé, donc tout petit. Et en fait, j'ai voulu au bout de 2 ans retirer un dossier d'allo, évidemment. Et on m'a dit que attention, si vous faites un d'allo, votre demande de logement sera comme annulée ou vous repartez de zéro en fait. Alors j'ai eu un peu peur. Je me suis dit le dossier est vierge dans ma pochette et je me posais la question.
Non, c'est surprenant comme réponse. Oui. Je ne sais pas qui a pu vous apporter ça comme réponse, mais ça, évidemment, ça n'annule pas tout.
En fait, malgré mes suivis auprès du CCAS, de l'AS, ça n'avance pas. Il ne se passe rien. Là, je vais fermer la parenthèse parce que c'est un peu particulier, je trouve, de ne pas pouvoir accéder à un support, enfin une aide du service public pour dire coucou, messieurs, dames, les responsables. Cette dame a besoin d'un logement.
Mais est-ce que vous pouviez, est-ce que vous étiez dans les conditions pour prétendre à un logement d'allo ?
Oui.
D'accord.
Ouais,
vous souscriviez aux conditions ?
Oui, complètement. D'accord. Complètement. Je suis même allée voir une maire de quartier qui me dit oh là là, vous êtes courageuse. Je l'ai vu début juillet. Rendez-vous, j'ai décidé de mon propre chef de la rencontrer. Bon, il ne se passe rien, évidemment. Bon, les bousculer, c'est un peu. Voilà, je ne sais pas pour vous. C'est pas évident, en fait.
Non, c'est pas évident. Il faut faire attention à cette histoire de bousculer parce que ces personnes-là sont. ultra sensible, c'est-à-dire pour un oui, pour un non, si ils vous ont, pardon pour l'expression, mais si ils vous ont dans le nez, vous pouvez être blacklisté et puis c'est un dossier qui ne ressortira plus jamais. Donc c'est vrai qu'ils ont ce pouvoir-là. Vous êtes-vous en difficulté qu'on peut comprendre. Il y a une certaine urgence, mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette urgence, ils la comprennent pas forcément. Alors on vous demande de patienter, sauf que dans leur esprit, patienter, c'est patienter plusieurs années, donc c'est toujours très compliqué.
On m'a dit 6 ans.
Ouais, bah voilà, enfin.
Comme Paris.
Ouais, voilà, mais comment voulez-vous, j'allais dire, réagir normalement?
Vous êtes dans quelle ville? Parce que.
À Montpellier.
À Montpellier, d'accord, c'est ça.
Bah ouais, c'est quand même terrible de dire à quelqu'un à patienter 6 ans. Et en plus, patienter 6 ans, ça veut rien dire, puisque ça veut pas dire qu'au bout de 6 ans, imaginons que vous soyez un moine bouddhiste et vous faites preuve de patience absolue. Au bout de 6 ans, vous êtes même pas sûr d'avoir un logement. Donc c'est vrai que c'est terrible d'entendre ce genre de réponse et ça peut vous mettre hors de vous.
On manque de courage et bon, après, il faut pas être, impulsif et réactif négativement.
Ouais, on est d'accord, c'est pas donné à tout le monde malheureusement, mais non, vous pouvez madame bénéficier des dispositions d'Allo, ça annulera rien de toutes les démarches que
d'accord,
vous auriez pu
faire.
D'accord,
moi je voulais vraiment parce que je n'arrive pas à, je vous assure hein, même au CCAS, ça fait 2 ans que je vois une AS, mais pour des petites choses hein, des soucis dans mon habitation actuelle hein, depuis bientôt 4 ans que j'y suis. J'ai le service municipal d'hygiène qui arrive début de semaine, lundi. Je m'accroche, mais on verra ce que ça donne. Hein. Moi j'ai la capacité de trouver les informations, les chercher et d'être réactive. Je dis bien positivement parce qu'il ne s'agit pas de se bagarrer. Je reste respectueuse, mais je pense à tous ces gens qui n'ont pas la capacité, ne serait-ce que par leur capacité de communiquer ou de s'exprimer ou d'écrire.
Est-ce que l'assistante sociale dans votre cas est d'une utilité? Elle vous aide, elle vous dirige ou pas du tout?
Ah là, je voulais pas dire mon prénom et mon nom. Je m'en fiche. Elle me dit toujours faut que je sois avec ma collègue. Finalement, même pour le simple problème de la salubrité, elle m'a transmis. Donc j'ai été appelée par le service nouveau là par rapport au problème d'énergie actuel, parce qu'il y a des instances publiques maintenant qui sont déléguées à expliquer aux gens comment ne pas économiser son énergie, hein, son EDF, voir l'isolation, enfin voir comment j'utilise l'électricité ou si je ferme bien, enfin juste des conseils, ça n'avait rien à voir.
Enfin, on entend souvent ça parce que, je me pose de plus en plus la question, et je ne veux pas froisser les assistantes sociales, mais de connaître l'utilité de cette profession. Parce que, alors, je dis pas qu'elles sont de mauvaise foi, mais
elles sont pas toutes.
Voilà.
Il y en a des très.
Oui, elles ont pas de levier particulier. C'est-à-dire que, vous allez voir une assistante sociale, elle va vous dire, écoutez, il y a tel service, tel organisme. Mais, encore une fois, hein, que les assistantes sociales qui nous écoutent ne se froissent pas. Mais je crois qu'elles ont pas, ce qui est une réalité, elles ont pas de pouvoir particulier. Alors, elles peuvent conseiller, elles peuvent dire, il y a tel service qui fait que. Mais ça s'arrête là. Et malheureusement, on a beaucoup de personnes, mais moi, je l'entends très régulièrement, qui, quand elles vous parlent d'assistante sociale, elles ont l'impression que c'est l'assistante sociale qui, entre guillemets, va faire en sorte de faire aboutir à telle ou telle situation.
Non, je pense que c'est un support. Ouais. J'ai envie de dire, pour moi, ça reste un partenaire, j'ai envie de dire, entre guillemets, public, qui fait que cette dame est venue plusieurs fois, ça fait quelques années maintenant, elle est toujours.
Je considère que comme beaucoup d'intermédiaires, c'est un intermédiaire qui présente peu d'utilité.
Pour monter les dossiers.
Il y a des gens
qui sont autonomes, mais il y a des gens qui sont pas du tout autonomes. Notamment pour l'accès aux droits sociaux, Maître Serran.
En règle générale,
malheureusement, vous avez
raison. Mais en règle générale, c'est alors voilà pour les demandeurs d'asile, c'est quand même assez particulier. Mais sinon, dans d'autres domaines, et Madame le disait très justement, si vous avez pas, c'est malheureux, mais c'est comme ça, un minimum de connaissances. Maintenant, en plus, tout passe par les écrans, donc par Internet. On a beaucoup de personnes qui restent, voilà, qui restent sur le côté, qui comprennent rien et qui sont pas, entre guillemets, comme on dit maintenant, connectés. Et si vous n'êtes pas connecté, si vous maîtrisez pas un minimum de paramètres, malheureusement, vous êtes totalement exclu de
si
tout ce qui peut se passer.
Connecté, si vous n'avez pas d'imprimante, si vous ne pouvez pas scanner les documents qu'on vous demande, parce que c'est ça aussi que ça veut dire.
C'est lourd, ça, pour ces personnes-là. Moi, je vous avouerai que je ne suis qu'avec un smartphone depuis quelques années, j'ai pas d'ordi. Je suis débrouillarde et autonome, je sais aller dans une boutique, mais je parle même de la capacité à, comment dire, j'ai envie de dire, même au niveau communication, quoi, s'exprimer, bien se faire comprendre, bien comprendre quels documents on leur demande. Il y a des gens qui sont apeurés de leur manque de capacité, je dirais. Je veux pas rentrer dans le système.
Bon, en tout cas, merci pour votre témoignage.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci. Yamina est avec nous. Au revoir, Célia. Yamina avec nous. Bienvenue, Yamina. Oui.
Oui, bonjour, Maître Serran.
Bonjour Yamina.
Alors Yamina, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, merci de revenir à nous, enlever tout ça. Comme ça, on va mieux vous entendre et tout le monde va profiter de votre voix. Alors, on vous écoute.
Oui, ça y est, je l'ai enlevé.
C'est bien. Alors, quelle est votre question, Maître Serran?
Écoutez, là on parle logement et puis moi j'ai le problème en sens inverse. Je suis très très bien logée. Mais c'est beaucoup trop grand pour moi et ça fait 8 ans que j'essaye de partir, mais j'y arrive pas. J'ai saisi le préfet, ça n'a pas marché. J'ai été voir un député, il a écrit à l'Assemblée nationale, j'ai reçu la réponse. J'avais vu mon maire de l'époque qui a voulu me reloger, mais dans un F3, parce que moi j'ai pas besoin d'un F3, j'ai besoin d'un F2. Et ça fait 8 ans que ma demande elle tourne, mais ça bouge pas.
Vous êtes dans un service HLM ?
Oui, c'est à la préfecture, oui.
D'accord. Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec quelqu'un ?
Oui.
J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Mon bailleur, lui, refuse de discuter. Il m'a envoyé un courrier en disant que je faisais une demande abusive. Je vois pas ce qui est abusif, parce que, je veux dire, les enfants sont mariés, sont partis. Moi, je me retrouve dans un F4. Déjà, les voisins, ils font un petit peu la tête, ils sont pas contents. Et là, je sais plus quoi faire. Et puis, il y a aussi l'aspect pécunier, parce que je paye un F4 pour des mètres carrés que je n'occupe pas. Et c'est du très beau logement, parce que j'étais famille d'accueil pour une unité psychiatrique, donc le logement devait être très... il fallait que ce soit quelque chose de...
C'est parfait pour accueillir les personnes que vous hébergez.
Alors c'est terrible ce que vous dites, parce que en règle générale, les services HLM, via très souvent d'ailleurs les gardiens, exercent une sorte de contrôle pour voir si une famille qui était une famille nombreuse est une famille qui devient moins nombreuse, parce que comme vous dites, les enfants partent, et il y a une sorte de petit signalement qui est fait auprès du service HLM, et c'est eux qui viennent vous voir en disant, écoutez, vous occupez un logement beaucoup trop grand pour vous. Et parfois ils imposent en disant on va vous proposer un logement beaucoup plus petit, ce qu'on peut comprendre, et c'est légitime. Donc vous, c'est le problème inverse. La difficulté, c'est que juridiquement, puisqu'on répond en droit, vous pouvez pas les contraindre. Vous voyez, autant il existe des procédures pour essayer de leur tordre le bras et puis de les contraindre à vous proposer un logement, mais l'inverse n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure qui dirait au service administratif, mon logement est beaucoup trop grand, donc je vous oblige, je vous force à trouver, à me donner un logement beaucoup plus petit. Ça n'existe pas.
Donc il n'y a pas de... Juridiquement, il n'y a pas de, vous voyez pas de moyen de contraindre.
Non, c'est ça qui est terrible. Alors, Madame le dit, ce serait juste le bon sens, mais juridiquement, on ne peut pas les contraindre.
Voilà, Yamina, merci pour votre question. Alors, on prendra d'autres questions dans un instant, Maître Serran, d'avoir un verre d'eau, 01-53-48-3000, si vous voulez appeler et passer en direct, 01-53-48-3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions juridiques à Maître Serran, c'est simple, hein, vous composez le 01-53-48-3000. Nous avons Nadia qui est avec nous. Nadia, bonjour et bienvenue.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Nadia.
Oui, bonjour. Je vous appelle, bon, bonjour Monsieur Serran.
Bonjour Nadia.
Je vous appelle en fait pour obtenir des renseignements. En fait, je suis dans une situation compliquée. Je suis propriétaire d'un logement que j'ai acheté et qui est loué. Mais en fait, la particularité de ce logement, c'est qu'il est loué sous le bail de 1948. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ah si, ça me parle, mais c'est il y a de moins en moins de personnes qui bénéficient de ce bail, bah, compte tenu de l'âge des personnes concernées. Oui. Donc c'est vrai qu'on en parle de moins en moins.
Absolument, oui, c'est un bail qui est extrêmement protecteur.
Ouais. Ah oui, on fait pas plus protecteur, oui, on est d'accord.
Oui, tout à fait. Et en fait, du coup, ben, le souci, en fait, c'est pas vraiment qu'il soit sous la loi de 1948. Parce que je sais que ça va pas durer, mais le souci surtout c'est que ce locataire il paye pas ses il paye plus du tout ses loyers. Allez, et donc du coup ma question ce serait comment est-ce que je pourrais mettre fin au bail de 1948 et faire du coup partir ce locataire qui ne paye plus ses loyers.
Le statut du bail n'a pas d'incidence sur un locataire qui serait un locataire qui est indélicat et qui ne vous paye pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous paye pas, vous allez vous rapprocher d'un huissier de justice et qui va faire délivrer un commandement de payer. Et il va falloir donner à l'huissier de justice des détails, alors indépendamment évidemment de facto du nom de l'intéressé, de l'adresse, les loyers qui n'ont pas été réglés, donc il va faire délivrer ce commandement de payer et si au bout de 2 mois l'intéressé, votre locataire indélicat ne règle pas les loyers, on passe à la vitesse supérieure et dans ce cas-là l'huissier de justice sera chargé de prendre une date auprès du tribunal et puis vous allez assigner l'intéressé devant le tribunal pour l'expulser. Donc, alors ça se passe en 2 temps. La difficulté, en vérité, madame, c'est que même quand on obtient une très belle décision de justice qui dit bah, écoutez, vous n'avez pas payé le loyer, alors 1, je vais vous expulser et 2, je vais vous condamner à régler les montants à payer. La difficulté, c'est de mettre à exécution ce Absolument. Jugement. Et pour mettre à exécution ce jugement, on fait appel à nouveau à un huissier de justice. Et à la fin, celui qui détient le pouvoir absolu pour permettre l'expulsion manu militari, c'est le préfet. Et très souvent, on a une belle décision de justice, c'est-à-dire qu'il y a un magistrat qui dit cette personne est indélicate, il faut l'expulser, et le préfet suspend l'expulsion. Alors, il y a mille et un motifs. Quand on a des enfants en bas âge, quand la personne est souffrante, donc c'est toute la difficulté avec ce type de décision.
Oui, bah justement, moi, c'est le souci que j'ai, c'est que bon, l'ancien propriétaire. Il avait déjà tenté du coup cette méthode, mais comme c'est une personne qui est âgée, jamais réussi à faire partir ce locataire. Mais moi aussi j'ai un autre souci, enfin, que je vous ai pas précisé, c'est que donc, cette personne elle a 75 ans, mais c'est une personne qui n'a plus toute sa tête, avec qui le contact est complètement rompu, il a des troubles du comportement, donc tout le monde a été alerté de sa situation, que ce soit la mairie, le CCAS, mais pour vous dire, le logement est même en état d'insalubrité, et que ça peut constituer un danger pour lui. Et même comme ça, avec un signalement, en fait,
les choses. Ouais, mais alors c'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui potentiellement peut être placée sous tutelle.
Exactement. Eh bien, écoutez, voilà, j'y ai pensé. Je me suis dit peut-être que mon dernier recours, ce serait là d'écrire un courrier au juge en disant, voilà, il y a une personne en danger.
Alors, vous pouvez faire ce type de signalement, alors en écrivant au procureur de la République ou au juge des tutelles pour dire, écoutez, voilà la situation, il semblerait que... mais c'est vrai que toutes les conditions, madame, malheureusement, sont réunies pour que la procédure se fasse pas du jour au lendemain. Et pour être clair, un juge pourrait, entre guillemets, trouver une excuse à ses loyers impayés en disant, mais ce monsieur a manifestement pas toute sa tête. Et donc n'aurait pas forcément la main lourde pour prononcer l'expulsion. Et puis dans l'hypothèse même, encore une fois, où un magistrat ordonnerait à l'intéressé de quitter les lieux, de ce que vous êtes en train de me décrire, il en résulterait tout simplement que le préfet ne courrait pas le risque de demander au commissaire et à un huissier de mettre ce monsieur dehors. Donc, alors, il faut savoir quand même que oui, quand il y a une décision qui ordonne l'expulsion d'une personne et que le préfet, pour des raisons X ou Y, ne fait pas exécuter la décision, vous avez la possibilité de récupérer les loyers impayés, mais c'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut saisir le tribunal pour dire, bah, écoutez, puisque j'ai une décision et vous voulez pas, en tout cas le préfet ne veut pas la faire exécuter, alors pour des raisons légitimes ou pas, peu importe, je demande à ce que l'État vienne compenser mes pertes de loyer. Mais alors, le système est bien, hein, y a pas de difficulté, mais vous avez bien compris que ça veut dire une nouvelle procédure, en plus de la procédure d'expulsion qui, elle, peut durer plusieurs mois.
D'accord.
Ouais, parce que tout ça, malheureusement, même si on se dit c'est évident, on paye pas, ben voilà, il faut mettre le locataire indélicat dehors, ben non, tout ça se passe dans des délais qui sont extrêmement longs. Et si vous demandez à être indemnisé légitimement, il faudra à nouveau engager une procédure.
Ouais, d'accord. Ok, très bien. Après, dernière question que j'ai, c'est que j'ai vu, j'ai lu ça sur Internet, que pour faire sortir aussi un locataire de la loi 1948, c'était faisable si jamais on retrouvait une solution
De relogement.
De relogement.
Oui, mais même chose. C'est-à-dire que la solution de relogement, il faudrait qu'elle convienne à qui ? Bah, au premier concerné, au locataire.
Oui.
Et de ce que vous me dites, le fait que ce monsieur n'a manifestement pas toute sa tête, moi, c'est ça qui me semble difficile à gérer. Ouais, parce qu'il faudrait pas qu'on considère demain ou après-demain qu'il y aurait eu un comportement abusif de votre part, c'est en disant, bah oui, elle a mis ce monsieur, comme dirait l'autre, n'importe où, sauf qu'il s'avère que ce monsieur n'a pas toute sa tête. Ouais, il faudrait pas que ça se retourne contre vous. Donc il faudrait quand même trouver, alors soit un interlocuteur ou quelqu'un ou une institution qui s'occupe ou qui s'est occupée de ce monsieur, ou alors effectivement saisir le procureur de la République ou le juge des tutelles pour dire voilà, je vous signale que mon locataire, voilà sa situation. Mais il faut que l'autorité judiciaire soit saisie du problème de ce monsieur.
D'accord.
Loi 48, ça veut dire que les loyers sont encadrés très bas. Hein,
les loyers sont extrêmement bas, ils sont encadrés et faut se réveiller de bonne heure pour les mettre dehors. Donc en règle générale, la loi 48, on espère quoi ? C'est terrible ce que je vais dire, mais le décès de l'intéressé, c'est tout. Mais sinon, oui, c'est financièrement, en tout cas, pas rentable. Vous n'êtes pas payé au prix du marché.
Oui, et puis il est vrai aussi que les membres de la famille peuvent...
Alors, il y a quand même des conditions particulières. Il faudrait être de comme dit Allo, de super mauvaise foi pour dire, bah, écoutez, je vous signale que j'occupais aussi les lieux. Mais les membres de la famille qui peuvent en bénéficier sont les membres de la famille qui sont sur place au moment où l'intéressé est encore vivant. C'est-à-dire qu'on peut pas débarquer le lendemain et dire je suis un membre de la famille. Mais c'est vrai que c'est une loi encore une fois particulière, mais qui s'explique pour dans le cadre d'un contexte historique. Mais c'est une loi qui est en défaveur des propriétaires. Oui, c'est terrible.
Ouais.
Alors vous pouvez éventuellement, j'imagine que vous avez une assurance pour cet appartement. Hein, vous pouvez demander à votre compagnie d'assurance de prendre en charge vos frais, les frais de procédure, les frais d'avocat, les frais d'huissier, hein, donc ça devrait être jouable.
D'accord.
D'accord, bon, bah, ça c'est quelque chose que je...
Ouais, c'est comme dire à l'autre, c'est toujours ça de gagner.
Oui.
Mmh. Voilà.
D'accord, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour...
Merci à vous pour votre appel.
Et merci. Bonne journée à vous.
Merci Nadia.
Merci bien.
J'ai grogné parce que j'étais attaqué par un imam. C'est violent, hein, Maître Serran. Vous-même, peut-être avez-vous été attaqué par l'imam Abdelali Mamoun.
Non, moi, l'imam Abdelali Mamoun est toujours plein de gentillesse et de douceur à mon égard.
Voilà. On se demande mais bien pourquoi. C'est oui, mieux non, mais que de se faire attaquer par un Doberman.
Non, mais complètement. Mais
c'est plutôt un bulldog, hein, l'imam.
Non, son visage reflète cette douceur et cette gentillesse. Il y a des gens. Non, mais je
vous assure. Vous avez quelque chose à vous faire pardonner, Maître Serran.
Pas du tout, non. C'est juste
mais
frère,
voilà, il a un visage apaisant.
C'est gentil. C'est gentil.
Moi j'aime bien.
Maître Serran. Allah il préserve toi et ta famille, ouais. Qu'Allah il vous comble de bonheur. Tout ton entourage, même Philippe Robichon qui est ton entourage, qu'Allah il préserve.
Bien sûr,
pour te dire.
Tu vois, ça touche tout le monde.
Et Maître Serran, il a gratté deux minutes là. Il est fort l'imam. Hein, t'as vu ça. Installez-vous.
Installez-vous.
Puisque l'imam Abdelali Mamoun sera là dans un instant. On parlera du voisinage avec vous. Alors, il y a encore beaucoup d'appels au standard. Vous pourrez nous rappeler la semaine prochaine ou vous pouvez continuer cette émission directement avec Maître Serran et vous l'appelez. Ce sont téléphone cellulaire, Maître Serran, communiquez-nous
ce terme numéro. Me fait toujours rire. Téléphone cellulaire. Alors 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Imam Abdelali, vous avez souhaité un bon anniversaire, Madame Serran.
Je savais pas que c'était ça.
Non, je vous dis.
Bah écoute, bon anniversaire, Madame Serran.
Bon, merci, ça va lui faire plaisir.
Qu'Allah lui prête longue vie, Inch'Allah. Dans la joie, dans le bonheur, la santé, voilà. Et son mari aussi.
Et vous savez qu'ils se sont mariés le jour de l'anniversaire de Madame Serran.
Donc c'est aussi l'anniversaire de mariage.
C'est les deux. Ça va, il va douiller, Madame Serran. La carte électron, à mon avis, va chauffer.
Il va être obligé de trouver au moins, je ne sais pas combien de clients là pour voir.
Ah ouais. À 50 ans, c'est la Rolex minimum. Hein.
La Rolex.
Ah ouais. À 50 ans, c'était pas de Rolex.
Ouais, pareil.
Un petit collier, tu sais, le petit collier, la gentille, avec un petit cœur au bout, il y a marqué.
Ouais, pour 27 ans de mariage, je vais être radin, Imam Abdelali.
Pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire, quoi d'autre? Ça va,
non bah attends, la totale.
Oui, 27 ans.
Ouais. 27 ans de mariage ans, et elle a un anniversaire rond.
Elle
a
un chiffre rond à 30
non,
ans.
Non, okay, non, mais elle a un chiffre rond aujourd'hui pour son anniversaire.
D'accord.
Donc là, aujourd'hui, c'est la totale, hein, Maître Serran. Vous nous raconterez tout ça, on suivra ça sur vos réseaux sociaux.
Félicitations.
Tout ça en direct.
Maître Serran.
Allez, dans un instant, c'est l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun et Maître Serran. On vous retrouve samedi prochain.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.